Jeudi 22 novembre, 43e jour de grève.
Salut à tous. La Grenouille est en direct du théâtre Tourski pour une heure de discussion autour du cinéma engagé, voire révolté, à l'occasion de la manifestation intitulée « Mai 68, amour et révolution ». On va donc se pencher sur le cinéma engagé, qu'est-ce qui s'est passé en 68, et surtout voir ce que ça veut dire faire du cinéma engagé aujourd'hui, filmer qui, où placer sa caméra, quel circuit de production et de diffusion on choisit, ou l'on subit d'ailleurs peut-être. Mais pour commencer, je voulais revenir sur ce que vous avez entendu il y a juste un instant, l'international quelque peu sabré, on pourrait dire. C'était un extrait du film Le dos au mur de Jean-Pierre Thorne, ce cinéaste révolté que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre Thorne.
Bonsoir.
Je trouve que cette distorsion de l'international présente assez bien votre démarche. On sent bien là que vous évitez les clichés d'un certain cinéma militant et que vous exprimez votre révolte de façon originale en travaillant beaucoup la forme. Il fallait oser quand même sabrer l'international dans un film sur une lutte ouvrière en 1979. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ?
Ouais, d'abord, c'est une lutte dans une usine où c'est mes frères, c'est mes potes. J'ai travaillé là 8 ans. Et donc, le fait qu'après 43 jours de grève, on soit plus qu'une cinquantaine à défiler dans les ateliers, que le travail a repris partiellement, qu'on a été complètement isolé, qu'à l'époque des grands trusts comme l'Alstom, la CGE, on en soit encore à faire des luttes qui sont des coups d'épingle contre des mastodontes qui ont un cynisme total et qui n'ont pas peur d'attaquer des ouvriers, puisque la direction nous a demandé 6 millions d'anciens francs à l'époque de dommages et intérêts pour détérioration de l'outil de travail. Donc quand les directions utilisent de telles violences juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, vous avez du mal à accepter en faisant des films qu'on chante simplement l'international. C'est à un moment donné, c'est à la fois mon chant, c'est le chant de tous les ouvriers, c'est un chant qui me touche le cœur, et en même temps j'en ai ras-le-bol qu'on utilise ce lyrisme pour masquer l'absence de remise en question, l'absence de lucidité, l'absence de travail sur nous-mêmes, et que en fait on transmette toujours une mémoire hagiographique, une mémoire lyrique, qui une image d'Épinal du mouvement ouvrier, en oubliant voilà que c'est un mouvement vivant qui vit, qui fait des conneries, qui fait des choses merveilleuses, et qu'il est temps de se donner les moyens vraiment de battre le capital et d'arrêter de faire des commémorations comme on fait là en 68, sans poser les questions de pourquoi ce mouvement a échoué, qui est responsable, comment on aurait pu s'organiser différemment, est-ce qu'il faut pas se poser la question aujourd'hui de la place des non-syndiqués dans les luttes. Enfin, je pense qu'il y a toute une série de choses que le dos au mur essaye de capter, et toutes ces choses, la commémoration officielle l'a laissée complètement de côté, c'est-à-dire on laisse la parole aux leaders, on laisse toujours la parole à ceux que la presse aime mettre en avant, mais on donne pas la parole à ceux qui ont fait, les vrais acteurs, qui sont les ouvriers, les paysans, parce que le mouvement paysan était très fort aussi en Bretagne en 68, et les étudiants et les comités d'action, tout ce peuple dans la rue qui rêvait, qui croyait, qui avait... Pourquoi tous les films qu'on a fait à cette époque ne sont pas vus aujourd'hui ? Ça, c'est pour moi la vraie question.
On va poursuivre là-dessus dans un tout petit instant. Je voudrais juste présenter l'ensemble des invités. Alors, ce soir, avec nous, on a Christine Tépénier, réalisatrice de Petites et Grandes Soustractions, un documentaire sur les travailleurs sociaux qui sont en interaction avec les RMistes. Et ce film était projeté hier à l'Alhambra. Avec nous aussi sur ce plateau, William Benedetto, justement, directeur adjoint du cinéma L'Alhambra, Richard Martin, directeur du théâtre Tourski, et Jean-François Néplaz, cinéaste, un des fondateurs du Polygone étoilé. Alors, je voulais vous poser une question à tous les deux, Richard Martin et Jean-François Néplaz, puisque vous êtes les co-organisateurs de cet événement, au Tourski et au Polygone étoilé, avec images et paroles engagées, cette manifestation intitulée « Mai 68, amour et révolution ». Là, on est au Tourski. Hier soir, c'était au Polygone étoilé. Pourquoi vous avez souhaité organiser un événement autour de mai 68, en plein tintamarre commémoratif, 40 ans justement après mai 68?
En ce qui me concerne, Richard, c'est plutôt Martin, un clin d'œil poétique qui prend son sens ici, puisque c'est parce qu'il y a eu 68 que je suis arrivé à la Belle de Mai, à Marseille. Donc c'est, il faut parler un peu plus près. Donc c'est une histoire qui est peut-être un peu longue à raconter, mais quand on sait qu'on vient à l'adresse de la promenade Léo Ferré, on a compris que c'est la bonne adresse pour parler de ce souffle poétique extraordinaire dont on parle beaucoup ici et là, bien souvent sans que je puisse m'y retrouver réellement, mais je comprends que en fait c'est 68 qui a fait les hommes et c'est pas les hommes qui ont fait 68.
Jean-François Néplaz.
68 en soi-même pour nous n'évoque rien, on peut pas être dans la commémoration, c'est ces années-là. Et ces années-là, on en est dans la continuité totale. Le Polygone étoilé, c'est un titre d'un livre de Kateb Yassine dans lequel on trouve cette phrase. Nos cités seront originales à ce prix, être édifiées sans plan, ce qui nécessite, soit dit en passant, un adieu déchirant aux fantômes de la tribu. Voilà.
Alors, et donc vous avez choisi d'inviter Jean-Pierre Thorne, réalisateur de deux grands films sur les luttes ouvrières, un tourné en 68, un en 79. Pourquoi ?
Alors on ne va pas payer les droits d'auteur, mais l'idée elle est quand même de Jean-François Debienne. Cinéma et parole engagée.
Image et parole engagée.
Et même s'il n'est pas là autour de la table, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il est en train de filmer. Parce qu'il est à la fois dégagé de la table et engagé dans le cinéma. Et donc l'idée vient de lui et l'idée d'un ami qui dit on va se retrouver entre amis, ça on dit toujours oui. Voilà. Et oui, sur la base de ce que Jean-Pierre Thorne définissait, de la mise en doute, mise en question, mais ce n'est pas un travail du moment, c'est un travail de tout instant, c'est un travail qu'on n'a jamais cessé de faire, qui est la base sur laquelle on travaille, et que voilà, on a une raison de plus de se retrouver à plusieurs autour d'une table pour continuer ce que nous faisons au quotidien.
Alors hier soir, Jean-Pierre Thorne, votre film « Le dos au mur » était projeté au Polygone étoilé. Ce soir, c'est « Oser lutter, oser vaincre » qui va être projeté ici au Tourski. Vous pouvez nous raconter comment vous avez réalisé ces deux films qui se répondent en fait à 10 ans d'intervalle. Et peut-être d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser le premier, donc sur des grèves ouvrières en mai 68, alors que vous aviez 20 ans ?
D'abord, rendre un César ce qui appartient à César, ce film n'est pas un film individuel. C'est un film qui est l'aboutissement de la mobilisation de toute une profession. Je crois que c'est des choses qu'on ne veut pas dire aujourd'hui. C'est que, par exemple, tout le cinéma, on s'est mis en grève active. Active, je précise, ça voulait dire tourner aux côtés des ouvriers, des étudiants, des paysans, témoigner de cette époque, des cinéastes plus connus comme Godard, Truffaut, ont fermé les rideaux de Cannes, mais on s'est retrouvés, nous, à Paris, en Assemblée Générale, et très vite, bon, il y a eu des commissions de travail qui ont réfléchi à l'avenir du cinéma, mais il y a eu l'idée de faire une commission production qui réunirait toutes les caméras qui étaient existantes sur Paris, parce qu'à l'époque, n'oublions pas que la vidéo n'existe pas, donc on tourne en 16 mm, donc tous les fonds de tiroirs de pellicules qu'on pouvait trouver, on se répartissait les lieux, certains allaient à la Sorbonne, comme William Klein, moi j'ai tourné à Flins, je voulais tourner dans une usine, j'ai pu rentrer à Renault Flins, d'autres tournaient à Citroën Nanterre, d'autres encore ont tourné dans le monde paysan en Bretagne, d'autres ont tourné dans des comités d'action, il y a eu toute une série de films tout à fait passionnants, qui en plus ont essayé de coller à cette réalité qui allait très vite tous les jours, essayer de comprendre. Moi je me rappelle, j'étais obsédé par ça, mais qu'est-ce que je vais tirer comme leçon de ce que je... Qu'est-ce que je raconte ? Et alors, tous les soirs, je m'enfermais dans une voiture, et comme là où je tournais, ils vendaient un journal qui s'appelait Servir le peuple, ils m'avaient donné le petit livre rouge, et je me mettais au fond d'une voiture et je lisais le petit livre rouge pour me dire mais il faut que je comprenne, parce qu'il y avait, cette idée, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, où on va ? On avait une soif d'avoir des outils pour analyser le monde, et voilà, et donc ce film a accouché d'un objet très...
que j'ai même des fois parfois du mal à revoir aujourd'hui, qui est très, très spécial, très une ovni, qui s'appelle Osez lutter, osez vaincre, qui appelle à la révolution mondiale, qui appelle à prendre les armes, qui dénonce toute une série de trahisons que nous avons vécues, mais surtout, et je crois que c'est ce qui est le plus beau dans le film, au-delà de tout ce fatras idéologique, qui a l'image de ces ouvriers en grève qui croyaient qu'on pouvait vraiment renverser le pouvoir gaulliste, qui croyaient qu'on pouvait créer un monde sans exploitation. Et ils sont à l'image, et ils ont une beauté, ils ont une poésie. Et je suis heureux que ce film leur restitue une image qui est bien souvent galvaudée et bien souvent oubliée de toutes ces commémorations officielles.
Oui, surtout en ce moment, justement, il y a peu d'endroits où on peut voir ce film.
Non, et puis ce qui est formidable, c'est...
Le micro.
ce qui est formidable, c'est justement de voir aussi cette possibilité de liaison entre les intellectuels et les ouvriers. Je pense que le gros événement de 68, c'est aussi la prise de conscience quand moi j'étais étudiant de cinéma, qu'il fallait que j'apprenne des choses au contact du mouvement social, qu'il fallait que je quitte le Quartier Latin, qu'il fallait que de toucher du doigt d'autres réalités que celles où j'avais vécu dans mon enfance pour établir des ponts. Et cette générosité-là, et inversement, il y avait une énorme soif du monde ouvrier de parler, de communiquer, de trouver des gens. Et bon, ils ont travaillé avec les ateliers populaires pour créer des affiches avec des cinéastes. Il y a des groupes ensuite qui ont continué dans les usines en donnant des caméras aux ouvriers. Je pense au groupe Medvedkin. Et c'est toute cette générosité-là, ces échanges qui a été le moteur de 68 et qu'aujourd'hui, on voudrait ravaler qu'à une histoire, je ne sais pas, jouir sans entrave ou ce soi-disant cynisme que Sarkozy se permet de parler. Excusez-moi, mais c'est vraiment incroyable d'aborder des termes pareils, alors que 68, c'était tout l'inverse. C'était la volonté de changer le monde et de le faire tous ensemble et de briser les barrières qui nous séparaient et de se parler, surtout de parler, voilà.
Je ne t'excuse pas, d'autant que je me souviens, moi, d'avoir écrit sur les palissades de la rue Soufflot, tout devient possible, et que, curieusement, ce slogan a été repris et détourné, même si on a essayé de nous faire croire que 68, c'était pas grand-chose. Je crois que c'est un souffle poétique extraordinaire qui a fait prendre conscience à beaucoup, beaucoup de jeunes gens qu'il y avait effectivement des fictions sociales et qu'on leur faisait prendre des vessies pour des lanternes. Donc ils se sont réveillés. Et on ne parle pas de ceux-là qui sont allés fabriquer ici et là des aventures fraternelles. Et il y en a une multitude et heureusement, parce que c'est peut-être ce qui reste d'espérance et ce qui va, c'est un peu le feu sous la braise, c'est ce qui va sans doute réveiller les jeunes gens quand ils auront compris qu'on leur fait avaler n'importe quoi.
Mais alors, en fait, Jean-Pierre Thorne, vous n'étiez pas satisfait de ce film, Osez lutter, osez vaincre, et vous avez jeté le pont, enfin laissé votre caméra de côté pour finalement aller voir ce que c'était que la vie d'ouvrier et la vivre.
Oui, mais je crois que c'est le rêve de tout cinéaste, à un moment donné, d'aller voir derrière l'écran. C'est-à-dire, j'avais touché du doigt ces réalités qui étaient tellement fortes et j'ai pensé que je trichais de parler d'un monde que je ne connaissais pas mieux. Et donc, c'était assez évident. Et j'ai envie, c'est pour faire mon métier de cinéaste, il fallait que je vive cette réalité ouvrière pour en parler correctement. Et donc, très vite, j'ai fait partie. Mais là encore, on a été plusieurs centaines à faire ce geste. Qu'on a appelé s'établir. J'ai travaillé à l'usine pendant pratiquement 10 ans jusqu'en 78-79, où j'ai quitté l'Alstom, autour de ce film Le dos au mur, qui a été fait quelques mois après que j'ai quitté l'usine.
Mais alors, quand vous avez décidé de devenir ouvrier, c'était déjà dans l'optique de tourner un autre film ?
Non, pas du tout. Non, c'était dans l'optique de faire la révolution. Je pense qu'on croyait vraiment, et bon, que le, quelques années après, ça allait repartir si on réglait les problèmes. Voilà, si on allait dans toutes les usines de France et qu'on organisait ce mouvement qui était apparu justement en dehors de la gauche officielle, institutionnelle, et qui avait des... tous ces jeunes travailleurs qui avaient vraiment l'envie d'une autre société, qui avaient envie... Et donc il faut être avec, il faut partager avec eux, essayer de construire avec eux. Et moi, à l'époque, je pensais plus du tout au cinéma. J'y suis revenu parce que d'un seul coup, il fallait témoigner, parce qu'à côté de l'usine où j'étais, on a une entreprise qui était que des travailleurs immigrés, s'est mis en grève donc en 73, qui s'appelait Margoline. J'ai fait un film qui s'appelle La grève des ouvriers de Margoline, qui raconte les premiers combats en France d'une usine, tous des sans-papiers, donc des patrons qui les surexploitaient, des gens qui n'avaient même pas le SMIC, qui dormaient dans l'usine, qui en cas de maladie n'a aucune protection sociale, et le patron disait « donne-moi ton passeport, je vais régler tes papiers ». Donc ces grèves-là, en trois jours, on a eu satisfaction. Aujourd'hui, en France, des milliers de travailleurs sont dans la même situation, payent leurs impôts, payent leur sécurité sociale, se mettent en grève pour demander à être régularisés, et Sarkozy, le pouvoir, laisse pourrir cette situation. J'ai honte d'être français quand je vois ça. Je trouve que il n'y a plus de droits de l'homme dans ce pays. C'est la politique du Front National qui est en train de s'appliquer, et j'ai honte que toute la gauche n'en soit pas dans la rue pour dire arrêtons, il y a des droits de l'homme dans ce pays, des gens qui travaillent, qui payent leur sécurité sociale, qui payent leurs impôts, qui sont là depuis 10 ans, on leur donne leurs papiers, il n'y a même pas à discuter. En 3 jours, on a tout obtenu, c'était en 73. Là, on est aujourd'hui en 2008, c'est ahurissant tout ce qu'on a perdu, quoi. Et si moi j'ai une des questions que ces films doivent poser et nous posent, c'est qu'est-ce qu'on a fait de 68? Pourquoi on a perdu tout ça, quoi? Pourquoi on a perdu cette capacité de se révolter, de dire non, de réagir à la... On a perdu vraiment... pour moi, ce qui est en train de se passer depuis que la gauche est arrivée au pouvoir, depuis 80, c'est une défaite de la révolte ouvrière, une défaite des idées de 68, et c'est de ça dont mon cinéma témoigne.
Vous nous avez amené, parce que vous penchez aussi sur la musique, sur les bandes-sons, vous les travaillez beaucoup, vous nous avez amené une petite playlist en fait, donc c'est vous qui avez fait la programmation musicale, Jean-Pierre Thorne. Alors vous nous avez amené Colette Magny. Vous pouvez nous présenter un peu cet extrait. On va écouter « Nous sommes le pouvoir ». Vous les présentez ?
Oui, Colette, c'est une artiste aussi, comme nous on l'a fait dans le cinéma, comme d'autres l'ont fait dans plein de... Elle a essayé de créer des chansons, déjà avant, pendant le combat pour soutenir le peuple vietnamien. Et là, en particulier, avec les ouvriers de la Rodia Seta, elle a enquêté, elle a écouté les bandes-sons des films, elle a écrit des chansons à partir des bandes-sons des films, avec Chris Marker, avec le groupe Medvedkin. Et celle qu'on va entendre, là, c'est une ouvrière aux usines Yema qui monte sur un tonneau, qui prend la parole pour la première fois de sa vie. Et le texte de la chanson reprend, parce qu'elle dit « Le patron demande la parole au nom de la liberté ». Il n'a pas le droit, ça ne se fait pas, au nom de la liberté. Et là, elle enclenche sa chanson. Et c'est ça que j'admire beaucoup, c'est tous ces artistes qui ont été aux côtés du peuple et qui ont nourri leur travail. Et au contraire de tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, que c'est chiant, le social, tout ce qu'on veut nous mettre dans la tête pour nous faire abandonner des combats essentiels, on voit à quel point c'était source de vie, source de... Voilà. Et merci à Colette Magny.
Permettez que je prenne la parole. Mais, au nom de la liberté, s'il vous plaît.
Allez-y.
Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement... Il n'a pas donné satisfaction, d'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers, les employés de la IEMA doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental.
Absolument pas.
Ma foi, si. Ma foi, si. C'est masqué par des revendications. Donc, silence, s'il vous plaît. Je demanderai à l'heure actuelle aux employés de la IEMA de venir s'exprimer librement, immédiatement. Après, c'est tout. Sans contrainte extérieure, parce que les ouvriers sont contraints à l'heure actuelle.
Ah oui ?
Vous avez vu, je suis trompé. Les gens ne vont pas pouvoir rentrer. Eh bien, pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur actuellement ? Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment ? Eh bien, laissez-le s'exprimer. Laissez-le.
Laissez-le s'exprimer, un point c'est tout le français moyen. Un point c'est tout. C'est ça la liberté à l'heure actuelle. Voilà. Là, si monsieur Blum veut monter, il est libre.
Mais
la question n'est pas là. Exprimez-vous, donnez vos opinions sincères, sans contrainte.
Demandez à monsieur Blum de faire des promesses.
Sans contrainte. Monsieur Blum, allez, frère. Et écoutez-le avant de vous engager. Écoutez-le, un point c'est.
S'il vous plaît. Nous sommes pour la liberté d'information.
Donc la liberté d'expression.
Voilà.
Si vous le permettez, vous pouvez monter. Là, je n'ai pas besoin de vous demander là-haut. Je voulais simplement vous dire que je ne peux pas entrer dans ces considérations générales, mais je vous demande de venir écouter les problèmes particuliers à nos entreprises. Ceux qui voudront bien entrer, entreront. Ceux qui ne veulent pas entrer, partiront. Je ne peux pas vous imposer. Je vous le fais dans le calme. Dans le respect de tout le monde, je ne veux pas qu'il y ait surtout de conflit entre vous, ça ne servira à rien. Et ceux qui veulent bien venir entrer, mais je parle aux membres du personnel.
Ce que je demanderais, c'est aux délégués présents de laisser les gens s'exprimer librement, sans contrainte extérieure, s'il vous plaît.
Uniquement.
Actuellement, les entreprises sont contraintes.
Bravo, ma fois-ci.
Non.
Essayez s'exprimer.
Je voudrais vous demander, vous n'êtes pas contraint de vous exprimer, vous aussi?
Non, je ne suis pas contraint.
Absolument pas, on n'a jamais vu ce monsieur, on a 8 jours.
Je voudrais le dire ici.
Je voudrais le dire ici. Aux employés d'AEMA de venir.
Le gouvernement et le patronat n'ont pas eu peur de discuter avec les syndicats. Et les syndicats n'ont pas eu peur de discuter avec le gouvernement et le patronat. Nous demandons à la direction de reconnaître les syndicalistes et nous sommes prêts à les discuter dans l'entreprise. Mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas envie. D'un autre côté, je voudrais vous dire une chose. Ce qui est en train de se faire à la IEMA, le vote que vous allez faire n'est pas simplement un vote IEMA. Vous êtes une parcelle, une particule de tous ces millions d'ouvriers qui sont en ce moment en grève et qui luttent pour une société meilleure et plus juste, où vos enfants pourront aller à l'école et avoir l'information et l'éducation qu'ils sont en droit d'atteindre.
Le patron demande la parole. Au nom de la liberté, c'est pas le patron qui commande la grève, c'est nous qu'il monte sur le mur comme tout le monde. Au nom de la démocratie, il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Il n'a pas le droit, ça se fait pas. Au nom de la démocratie, quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment, versons-leur un acompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. Au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra. Au nom de la liberté, camarades, nous ne pouvons pas accepter la division jusqu'à maintenant. Nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
On poursuit notre émission depuis le théâtre Tourski à l'occasion de la manifestation intitulée Mai 68, Amour et Révolution. Alors Jean-Pierre Thorne, donc, vous avez réalisé Le dos au mur en 79 pour répondre à Oser lutter, oser vaincre, réalisé pour celui-là en mai 68. Cette fois, vous étiez satisfait ?
Satisfait, on ne l'est jamais, mais j'étais plus proche des gens et j'ai plus une caméra qui doute. Je crois que c'est un film surtout qui doute, qui cherche, qui laisse la parole à tous les acteurs d'un mouvement. aux copains syndiqués, militants depuis 20 ans, aux jeunes non syndiqués, au petit Rocky qui a son mot à dire sur, qui fait partie du comité de grève, aux tartampions qui font partie d'aucun machin comme ils disent, aux femmes, aux copains immigrés, et de toute cette diversité-là compose cette réalité forte qui s'appelle Mouvement Ouvrier. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce film, et je suis content qu'aujourd'hui il soit réédité en DVD, parce que c'est vrai que je pense que c'est une page de cette époque, comment ont été vécus les mouvements. Et en plus, c'est un film que j'aime en tant que cinéaste, parce que c'est un film où je m'engage, je vais chercher le patron dans la rue, je m'amuse à créer un menuet rock sur les pas du patron pour le faire danser. Et bon, j'ai des comptes à régler moi aussi, et en même temps je le fais avec les moyens du cinéma, c'est-à-dire j'espère du mouvement, de l'humour, de la couleur. Enfin, c'est un film où on a énormément travaillé la bande son avec quelqu'un qui s'appelle Jackie Moreau, et un peu de rock alternatif qui conteste l'image, qui la met en doute, qui justement sabre l'international. Et c'est je pense, la richesse de ce questionnement qui fait que ce film est toujours visible aujourd'hui. Je suis pas là simplement dans faire l'apologie simpliste et manichéenne que j'ai pu faire dans mon film de 68.
Et alors ensuite, vous avez réalisé ici à Marseille une fiction qui s'appelle « Jeter dans la peau ». Alors quelle continuité avec vos précédents films ?
Si vous voulez, j'ai été très troublé de trouver un jour dans la presse la lettre d'une permanente syndicale de Lyon qui s'appelle Georgette Vacher, qui écrit... C'est la fin d'une grande histoire. Je suis le dos au mur. C'est la fin d'une grande histoire d'amour avec la classe ouvrière. Et j'ai été bouleversé. J'ai tout de suite pensé que cette femme avait vu le dos au mur, qui à l'époque circulait beaucoup en France. Et donc, je suis allé à la rencontre de la commission féminine que cette femme avait organisée, j'ai découvert qu'on lui avait retiré ses responsabilités du fait de ses positions féministes dans le syndicalisme. Et donc, c'est toute une histoire du mouvement ouvrier, des femmes qui, autour du journal Antoinette, ont représenté un mouvement extrêmement fort et contesté la façon dont les hommes militaient. Et j'ai voulu faire un film à la gloire de ce mouvement. C'est en même temps un film aussi très noir, puisque cette femme se suicide au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Elle pense que la gauche, n'étant plus aiguillonnée par le mouvement syndical et par un mouvement qui veut un changement de société, ne gagnera pas les combats. Et donc c'est quelque part un film prémonitoire, hélas, je dirais, sur ce qu'on a vécu dans les 20 années qu'on suivit. Et ce film, je le dois vraiment à tout le mouvement féministe qui s'est mobilisé en France, qui est venu manifester à Marseille. J'ai pu faire une manifestation sur l'avenue de la République. Je vous jure que à 6h du matin, quand on se demandait si tous les cars qui arrivaient de France seraient là pour jouer cette manifestation, où elle s'affronte avec le service d'ordre syndical qui veut pas que les petites bourgeoises passent avant le mouvement ouvrier. Pour des conneries comme ça, on se tapait dessus, quoi. Et donc les femmes qui manifestaient souvent étaient des copines des commissions féminines du Rhône qui venaient et qui ont joué dans le film des rôles, et ceux qui tapaient dessus, c'était des copains de Lorraine Cœur d'Acier à Longwy qui rejouaient leur histoire. Et je criais coupé, les gens continuaient, quoi. Ils rejouaient leur histoire. Et ça, j'adore quand le cinéma est là, c'est-à-dire rejoue l'histoire sociale, permet de... Et les copains qui étaient là disaient, mais on est cons, finalement, elles sont formidables, ces femmes, on aurait dû leur parler, on aurait dû faire avec elles. Bon, voilà, mais malheureusement, cette femme, elle, en est morte, et j'avais envie de raconter son histoire, qui nous interroge tous sur ce qu'on a fait de 68, quoi.
Et alors ensuite, vous avez tourné dans les banlieues.
Et après, oui, c'était pour moi assez naturel que je cherchais d'où venait la vie dans cette société figée avec une gauche gestionnaire au pouvoir qui manque totalement de... enfin, qui n'ose plus s'attaquer au système, qui répond que bon, on peut, les politiques peuvent rien faire, c'est l'économie qui guide tout. Et j'ai constaté, je suis tombé par hasard sur des manifestations de danse hip-hop à Lyon, formidable. Ça s'appelait Danse Ville Danse, avec des jeunes danseurs issus des banlieues qui avaient une pêche pas possible, une parole aussi, une révolte contre, une rébellion contre cette société, tout en exigeant de prendre leur place à travers l'art. Et j'ai finalement trouvé en dehors de l'usine ce que je cherchais à l'usine, quoi. Et donc je n'ai cessé de travailler en collaboration avec eux sur un premier film Génération Hip-Hop, et puis ensuite Faire Kiffer les Anges, qui est sans doute mon film le plus connu, qui a fait le tour du monde, parce qu'il a reconnu comme culture à part entière, en cessant ce néocolonialisme où on les considère toujours comme des sous-citoyens, et on ne considère pas qu'en banlieue il y a une culture à part entière. Et bon, vraiment, ce film a énormément circulé. Et puis, On n'est pas des marques de vélo, qui raconte une histoire à l'oral qui est l'envers du précédent, mais que j'aime énormément parce qu'il a été dansé. Cette fois, il a été fait avec des danseurs hip-hop et avec des rappeurs qui ont collaboré à part entière au film, et raconte ce qu'on appelle l'histoire des doubles peines, ce qui est pour moi le comble du comble, c'est-à-dire des jeunes arrivés en France à l'âge de 4 mois et qu'on dit ne plus être français parce qu'ils ont fait des conneries alors que leurs parents sont devenus français, et qui, en plus d'une peine de prison, a été mis dans un avion, expulsé dans un pays qui n'était pas le sien. Et je pense que quelle image de la France on donne à cette jeunesse qui finalement s'aperçoit que si vous êtes basané, vous n'avez pas les mêmes droits dans cette République. Les droits ne sont pas les mêmes pour tous. Ça aurait été mon gamin, il aurait pris ses 4 ans de prison, il reprenait sa place. Et là, ce gamin était rayé à vie, on va dire, de la société française. Et donc, grâce au film, on a pu régulariser sa situation. Mais j'en ai régularisé, enfin, lui et son frère, 2, et il y en a des milliers. Et ça continue. C'était à l'époque, le candidat François Mitterrand avait dit « Si je suis élu, j'abolirai la double peine ». On est maintenant un paquet de temps derrière, c'est en 81. Et cette double peine continue toujours. Et Nicolas Sarkozy avait un boulevard pour faire semblant de faire des droits de l'homme et à améliorer sur des... Enfin, pour la vitrine, en donnant à 400 cas environ en France la régularisation. Mais la loi, elle, la double peine, dans son principe même discriminatoire, dans la loi républicaine, est toujours en place. Et pour les jeunes des quartiers, il y a le sentiment que, de toute façon, pour eux, leur place n'est pas à égalité dans la République. Et ça, c'est grave. C'est grave, il ne faut pas s'étonner après qu'on débouche sur des violences comme les émeutes récentes qu'on a vues à différentes reprises en 2005 et à Clichy. Je pense qu'on se conduit par rapport à notre jeunesse comme un pays colonial se conduit dans les colonies, et que c'est insupportable. Et moi, je comprends que des jeunes soient exaspérés, et à un moment donné, quand il n'y a plus moyen de se faire entendre par la démocratie, c'est inévitable que ça va éclater d'une autre manière. D'où l'importance de tous ces films qui justement étaient positifs, qui montraient qu'ils avaient une pensée sur le monde, ils avaient une énergie, une joie de vivre qui nous apporte à tous, qui nous enrichit. Et je trouve ça incroyable que ce mouvement ait encore tellement de mal à rentrer dans les lieux théâtraux en France. Il ne faut pas se leurrer, c'est toujours autant difficile. D'ailleurs, on ne prend le hip-hop que pour éviter que les banlieues crament. On joue aux pompiers de service et on ne permet pas à ce mouvement de trouver toute sa place.
Christine Tépeigné est avec nous aussi ce soir. Vous êtes réalisatrice. Vous avez filmé la dichotomie, voire la schizophrénie dans laquelle se trouvent les travailleurs sociaux, qui sont les interlocuteurs des RMistes. Le film s'appelle « Petites et grandes soustractions ». Il a été tourné à Marseille. C'est un documentaire. D'où vous est venue cette idée ?
En fait, je cherchais où me mettre pour essayer de parler de la pauvreté. En fait, pour le dire un peu bêtement, c'est ça. Et dans ce beau pays, il y a une espèce d'écart tellement gigantesque entre les personnes et les plus qu'on laisse sur le côté, quoi. Les pauvres, les sans-papiers, etc., etc. La liste est longue. Et l'autre côté, comme ça, parce qu'il y a quand même énormément de richesses dans notre pays, je me disais, comment je vais faire, moi qui suis une Française qui n'est pas non plus de gros soucis au quotidien, c'est-à-dire j'ai pas de soucis vitaux, quoi. J'arrive à travailler, je suis blanche, c'est facile, quoi. Où je vais pouvoir me mettre sans aller mettre ma caméra devant des pauvres en montrant des personnes qui pourraient me dire je suis pauvre et puis on pleure un petit coup et puis ça serait fini. Et je me suis dit que les travailleurs sociaux étaient des personnes assez bien placées, en fait, parce qu'elles sont quand même bien au milieu, quoi. C'est-à-dire qu'elles, en général, sont un petit peu sauvées d'affaires, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ont du boulot, elles sont, etc. Et puis, elles voient quotidiennement, en face d'elles, arriver des personnes qui ont vraiment de gros problèmes. Et en fait, en travaillant petit à petit, en creusant cette histoire, en rencontrant les travailleurs sociaux pour essayer de valider cette hypothèse, j'ai rencontré une personne avec qui je partageais beaucoup de choses au niveau des idées. Donc j'ai commencé à travailler avec elle et il se trouvait qu'elle était aussi enseignante. Et là, j'ai trouvé que ça commençait à être intéressant parce qu'effectivement, il y a une réflexion sur comment on regarde l'autre, comment on envisage la place de l'autre, quel est le droit qu'on a sur elle ou pas, etc. Des questions comme ça qui sont posées aux étudiants parce que ça fait partie de leur travail, qui, à mon sens, pouvait intéresser tout le monde et surtout devait même intéresser tout le monde, alors que c'est des choses dont on n'entend jamais parler. Et je trouvais que c'était une belle... voilà, que ces personnes avaient une... Enfin, m'offraient du matériel pour reposer cette question-là, quoi. Comment on regarde les autres, comment on les traite, parce que je trouve que c'est... Ouais, que c'est pas possible, quoi, de traiter les gens comme ça. Et donc, finalement, ce film s'est orienté, mais très vite, hein, sur la chose qui, pour moi, est la plus insupportable, c'est le système de contrôle. En fait, le système de contrôle dans une société qui remplace la prison, quelque part, hein, qui est cette chose qui sépare les personnes, cette chose qui détruit, mais physiquement, les personnes qui ont la trouille. Et c'est... Enfin, on le voit partout, quoi. On le voit partout. Et c'est un film, donc, effectivement, qui s'est bâti là-dessus pour parler de ça. Voilà.
Et alors, pour les auditeurs qui ont raté la projection d'hier à l'Alhambra, où et quand ils pourront voir le film ?
Alors, hier, on a vu une projection à l'Alhambra qui, pour moi, est vraiment un moment, je pense, que j'oublierai jamais. Parce que d'abord, la salle était presque pleine et parce que très vite, on voulait un débat. Hein, parce qu'en fait, depuis le début, en travaillant avec ces travailleurs sociaux-là, il était clair que ce film, on le faisait ensemble. Et qu'après, une fois qu'ils avaient accepté, parce qu'il n'y a pas grand monde non plus aujourd'hui qui prend la parole, de prendre la parole et de s'exprimer dans un film, il fallait que ça continue, qu'ils puissent en servir. Et hier, ce qui était très, très, très agréable pour moi et pour eux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont levées dans la salle pour dire « Ce film, on veut nous aussi le prendre et puis l'emmener ailleurs pour que d'autres le voient, pour s'en servir comme ça. » Voilà, donc la première invitation, c'était une invitation préalable, elle a été faite par le Parti communiste, par la Fédération à Marseille, donc des Bouches-du-Rhône, qui le projettera au sein de la Fédération, c'est Boulevard Saint-Louis, je crois, le 6 juin à 19h30. Ensuite, il est visible sur Internet parce qu'il est diffusé en première diffusion par Canal Maritima, qui est une chaîne câblée de Martigues, qui va aussi le mettre en ligne parce qu'ils ont un site où on pourra le voir en cliquant sur le lien gratuitement à partir du 6 juin. Donc il faut taper sur le site Canal Maritima et on pourra voir le film. Ensuite, donc, comme je le disais, d'autres personnes ont demandé hier à le faire circuler, en quelque sorte. Ça, j'ai pas encore les dates, mais je sais pas, peut-être que vous serez au courant et que vous pourrez relayer l'information.
Alors, filmer, c'est une chose, mais après, il faut qu'ils soient vus, les films, justement. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quel circuit de production et de diffusion emprunte le cinéma engagé ? Alors là, je m'adresse un peu à tout le monde, mais peut-être en particulier à William Benedetto et Jean-François Néplaz. William Benedetto.
Quel circuit ? Enfin, c'est une question un peu générale. Moi, je peux parler de là où je suis. De l'Alhambra, je peux essayer de dire un peu comment nous, on essaye à notre échelle de travailler. Peut-être aussi, j'avais juste envie de revenir sur ce terme de cinéma engagé qui je sais pas si c'est une bonne chose de qualifier, par exemple, le travail et le parcours de Jean-Pierre Thorne comme étant du cinéma engagé. C'est-à-dire que c'est un engagement de sa personne tout au long de son travail, mais ses films Enfin, je veux dire, moi, je suis un héritier, si on peut dire, de 68. Moi, j'ai découvert Le dos au mur, et pour moi, c'est un film qui effectivement est peut-être dans un rapport à un film qui a été fait en 68, mais qui dit quand même quelque chose de très fort par rapport à la fin des années 70 et l'avènement de la gauche, et qui quelque part annonce le désespoir à venir. Enfin, il a quelque chose de très fort par rapport à ça, ce film. Donc, si on devait conseiller à des gens de voir ce film, c'est à mon avis surtout pour ça. C'est-à-dire qu'on découvre avec le film que le mouvement ouvrier est en train d'être mis de côté tout doucement, en même temps que la gauche prend le pouvoir. Et donc, quelque part, on devine avec ce film ce qui va advenir après. Donc, je pense que c'est important aussi de ne pas enfermer les films dans une case comme ça, parce que. Et de ce point de vue-là, le terme engagé peut être souvent, voilà, c'est une façon de dire, voilà, c'est engagé, donc il n'y a rien, quelque part, c'est réglé, quoi. Je crois que ça, c'est plus complexe que ça. Et on n'utilise jamais le terme engagé pour les films plus commerciaux, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film très engagé par rapport à certaines idées, certaines valeurs, mais on le dira jamais. Donc j'avais juste envie quand même de pointer ça. Donc nous, pour nous, quand on essaye de jouer un rôle à l'échelle d'un cinéma comme l'Alhambra, qui est quand même une institution, qui a beaucoup de soutien, qui est certes dans les quartiers nord, mais qui est une grande maison avec une histoire, c'est vrai que par rapport à l'exemple du film de Christine qu'on a diffusé hier, c'est d'autant plus un bon exemple que le film s'est terminé à l'Alhambra. Donc c'est vrai que c'est un endroit où on se dit qu'aujourd'hui des lieux comme les nôtres devraient être beaucoup plus impliqués à permettre à certains films qui n'ont pas la possibilité de se faire dans les circuits habituels de se faire, parce qu'effectivement on n'est plus en 68, on est avec de la vidéo, donc on est a priori avec des moyens techniques très, très faciles, et de ce point de vue là on a sûrement un rôle à jouer beaucoup plus important. Alors là l'exemple est bon puisque Christine a terminé son film chez nous, a fait son mixage à l'Alhambra, donc c'était d'autant plus fort que de faire rencontrer le film terminé au public. Et après, si on a un rôle à jouer au-delà de la séance qui s'est passée hier, c'est d'essayer d'actionner les réseaux, parce que les réseaux existent effectivement, il y en a beaucoup aujourd'hui, de nature très différente, et qui croisent des festivals, qui croisent des lieux, qui croisent des personnes et qui croisent des démarches. Et c'est vrai que c'est chacun à son échelle qui peut jouer un rôle, mais effectivement les lieux existent, les démarches existent, elles sont quand même fragilisées. Je veux dire, il faut se prendre conscience qu'aujourd'hui c'est un endroit justement de ce qui concerne la diffusion du cinéma, tout ce qui est ce qu'on peut appeler les petites associations, les petits festivals, les choses un peu marginales qui fonctionnent avec pas beaucoup d'argent, qui sont les plus attaqués aujourd'hui par des baisses de crédit de tous les côtés. Donc effectivement il y a des endroits où ces films-là peuvent être montrés, mais jusqu'à quand et dans quelles conditions? Alors peut-être que ça peut redynamiser, redonner du sens à des luttes, mais en même temps à un moment donné c'est ce que montrait bien le film de Christine hier, quand on n'est que dans la survie, ça devient un peu compliqué. Donc moi je crois qu'effectivement il y a un chantier qui a toujours été un chantier qui croise toute une série d'intervenants possibles qui existent, qui sont pas forcément très, très connus, et effectivement il y a la télé qui est cette espèce de mastodonte, mais je crois qu'à un moment donné il faut essayer d'oublier la télé, même s'il y a des questions de financement qui sont liées. Du côté de la diffusion, je crois que ça se joue ailleurs et dans d'autres dimensions.
Jean-François Desplaz.
Je vais mettre pour commencer des bémols aussi sur le mot engagé. Ce qu'on attend d'un film, c'est d'abord qu'il soit engagé en cinéma, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas parce que c'est... La plupart des films, la grande majorité des films qui sortent actuellement sont extrêmement codifiés, extrêmement normalisés par le mode de production. Et quand bien même il est fait sans mode de production, il est aussi normalisé par les outils de travail. Il est normalisé par la solitude du gars ou de la femme, excusez-moi, seul devant son ordinateur, dans son salon, avec le film qu'il a fait en DV et qui parle à personne, qui parle dans son salon. S'il y a une terrible normalisation, on voit arriver, quand on a un lieu de diffusion, comme nous l'avons construit au Polygone, on voit arriver des piles de DVD quotidiennement, de gens qui envoient des DVD en espérant qu'il y ait quelque chose derrière. Et nous disons depuis longtemps que pour qu'un film existe, il faut bien plus que sa fabrication. Le film est une aventure collective. Alors il y a des exceptions à tout ça, il y a des grandes aventures purement solitaires que je ne rejette pas, mais qui sont particulières, et il faut d'abord entendre le film comme une grande aventure collective. Depuis le moment où il est pensé, vécu, parce que nous vivons dans une société à laquelle au milieu de laquelle nous évoluons, nous nous confrontons, pas dans un lieu clos, un milieu clos comme l'est actuellement le milieu du cinéma français. C'est un endroit perdu, un ghetto qui pour nous est en satellisé dans son ensemble, avec quelques exceptions. Hein. Donc il y a à vivre socialement le cinéma, il y a à le fabriquer collectivement, parce que le cinéma est une aventure lourde, la pointe bique et le bloc rodial cinéma, c'est vraiment un travail technique conséquent qui implique beaucoup d'imaginaire mis en partage. Et puis après il y a la diffusion, et puis après il y a la sauvegarde de la mémoire, qui est encore autre chose. Je suis très heureux d'entendre et de voir aussi dans le film de Jean-Pierre Thorne que la dimension mémoire, mémoire du mouvement qu'est le cinéma, la dimension mémorielle, il en a une extrême conscience quand il fait ses films. Alors quelqu'un comme Vautier, autre cinéaste militant qu'on a, entre guillemets, hein, autre cinéaste dit militant qu'on a rencontré nous pendant 4 jours là, autour du 1er mai, il ne savait même pas le nombre de films qu'il avait fait. Il tournait des images pour l'usage immédiat, et maintenant beaucoup ont été perdus, et maintenant tout d'un coup il se rend compte que c'est son boulot là d'aller chercher les bouts perdus, et nous c'est quelque chose que nous prenons en compte dès maintenant, parce que si on attend de l'INA, qui est quand même l'outil mémoriel de l'État et des institutions, s'intéresse à ces films là on va attendre longtemps. L'INA va dépenser des sommes considérables pour mettre en mémoire les descentes d'avions de François Mitterrand, hein, numériser, copier à intervalles réguliers. Si on intégrait dans le coût de production le coût de la mise en mémoire, le coût de la sauvegarde, on multiplierait par 10, par 100. Parce que le numérique n'est pas un outil de sauvegarde. Le numérique est un outil de duplication. La vidéo est un outil qui nous a fait perdre la mémoire. Et la culture populaire, actuellement, s'inscrit en vidéo. Et c'est pas un hasard, c'est pour faire perdre la mémoire. Voilà. Et donc ça, c'est des problèmes que nous avons à prendre dans leur ensemble. On ne peut plus uniquement s'occuper de faire un film. On doit s'occuper de comment on le fait, de comment on le produit, de comment on le diffuse, de comment on le met en mémoire. C'est un ensemble de questions. Et il n'est pas question qu'un individu seul résolve toutes ces questions. Il n'est pas possible qu'un individu seul résolve toutes ces questions. Ça doit être un travail collectif, c'est un travail politique qui doit être relayé par les institutions. On vient actuellement, nous, au Polygone, de retrouver un film de ces années-là, dont on parle, de ces années 60, fait par un Tunisien qui s'appelle Marc Sialom, et qui est tourné entre Tunis et Marseille. C'est une perle du cinéma français qui, en plus, est née dans notre région. Elle a été tournée en film, personne n'en a voulu à l'époque, mais il dure assez longtemps pour qu'un enfant dise « Papa, qu'est-ce que t'as fait ?» et la curiosité d'aller le voir. Les institutions de la région et du Conseil général ont apporté les financements pour sauver ce film, le mettre en 35, pour que quelque chose perdure qui avait été, à un moment donné, négligé par la société, y compris... Les cinéastes militants, puisque Chris Marker avait vu le film et n'en avait pas voulu. Il n'a eu le soutien que de deux personnes, trois personnes. Il m'a cité trois noms, Marc Sialom, donc il m'a cité le nom de Louis Daquin, de René Vautier et de Jean Rouch. Ces trois personnes lui ont dit « ce que tu as fait est exceptionnel », mais c'est tout. Et ce film aurait dû disparaître. Donc c'est un combat qui ne s'arrête jamais. Et quand bien même les meilleurs amis du monde peuvent à un moment te laisser tomber, il faut que d'autres relayent ça. C'est un combat qui ne cesse jamais. Moi, il me semble qu'on a appris ça dans ces années 60. On a appris que la lutte était quelque chose qui appartenait à tout le monde, que la politique appartenait à tout le monde, que les modèles... s'écroulaient et qu'il fallait les laisser s'écrouler. On a appris à s'organiser collectivement, on a appris à réorganiser le territoire, on a pensé que la concentration parisienne, c'était peut-être pas la finalité. C'est d'ailleurs une des choses qui, dans les commémorations, me paraissent disparaître. On a l'impression que mai 68, c'est à Paris. Non, je suis désolé, moi j'étais au fin fond de la Haute-Savoie. Et il y a eu écho de ça. Et si nous sommes à Marseille aujourd'hui, c'est aussi dans cet héritage-là, dans ce mouvement-là, qu'on remet en question, qu'on interroge, qu'on va chercher où ça a merdé. Et l'histoire du film de Marc Cialhomme, c'est un endroit où ça a merdé, parce que les idées qu'il avait étaient tout à fait pas lisibles pour, dans les grilles idéologiques de l'époque. Mais aujourd'hui, je dirais, s'il y a un film extrêmement politique sur l'émigration à cette année-là, dans ces années-là, fait dans ces années-là, c'est le film de Marc Cialhomme. On le verra sous peu à Marseille.
Et qu'est-ce que Jean-Pierre Thorne, vous pouvez comparer un peu les circuits de production et de diffusion alternatifs. Donc c'était de l'effervescence au moment de 68-70. Et aujourd'hui, comment vous voyez tout ça?
Oui, enfin moi je pense que après toute l'époque qui a suivi 68, où la demande sociale était très forte, le nombre de comités d'action était vivante avec le 16 et tout. Je pense que l'arrivée, encore une fois, de la gauche au pouvoir nous a fait perdre, quelque part, notre désir de continuer à communiquer. C'est-à-dire, on a eu l'illusion que la télévision allait changer, on allait avoir une télévision populaire, je ne sais pas quoi. Et en fait, la télévision a vomi tout ça. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé Moi, je sais avoir écrit avec des gens comme Alban Poirier, qui avait fait Lorraine Cœur d'Acier, ou avec les Le Garec, qui avait fait Blog of des pierres contre des fusils, pour demander que ces films passent à la télévision française, qu'on ouvre un créneau pour transmettre la mémoire ouvrière. Je pense que jamais la télévision n'a voulu entendre cette demande. Y compris Chevènement, qui s'amusait à passer le film à Belfort en me demandant de venir le présenter pour la victoire de François Mitterrand, et qui ensuite ne répondait pas à nos lettres quand on lui disait c'est bien gentil d'avoir appelé à voter, maintenant il faudra que ça continue, qu'on montre que voilà, la mémoire ouvrière c'est quelque chose d'important dans ce pays, elle se cherche, elle est bon. Donc après, les salles de cinéma ont essayé. Il y a eu toute une époque très vivante en France, au moment où j'ai sorti Le Dos au mur, qui a été encore très vivante au moment de Faire kiffer les anges. Et on n'est pas des marques de vélo, ça commençait déjà à être plus difficile. Mais moi, je vois d'un film à l'autre que plus ça va, plus je sors sur moins de copies. Et maintenant, je n'ai plus les moyens même d'avoir des copies 35. Et je vois que les salles, de plus en plus, elles, pour leur survie, ont de plus en plus tendance à ne passer que la culture dominante, tout ce qu'on appelle les films porteurs. Il y a les films d'art et essai porteurs, ce qui est une aberration. C'est-à-dire que de l'argent est donné à des salles sur fond public pour finalement passer une culture dominante qui n'a plus besoin d'un travail spécifique. Passer Woody Allen aujourd'hui en salle, moi, avec tout le respect que j'ai pour Woody Allen, je pense que c'est plus un travail qui est de passer, par exemple... Je pense à Rome plutôt que vous, un film exceptionnel que je viens de voir sur l'Algérie, qui demande un vrai travail d'engagement sur le terrain, et que ces films, aujourd'hui, de moins en moins de salles, prennent le risque de tenter un débat. Et donc, il y a de plus en plus des lieux alternatifs qui se constituent en dehors des salles, qui eux le font avec une croyance et une militance, enfin. C'est-à-dire se battre vraiment pour faire d'autres choses, mais qui a globalement quand même une absence totale de soutien. Et alors peut-être ça va justement redonner une deuxième vague, mais quand même il est légitime aussi de se battre. Il y a eu récemment à Paris un rassemblement de toutes les salles d'art et essai, voilà, parce qu'on est en train de leur couper leur subside. Et par rapport aux salles qui, justement, essayaient de faire autre chose, et par rapport à tous les dispositifs, écoles et cinémas, passeurs d'images qui allaient dans les quartiers pour montrer aux jeunes des films, en faisant venir des réalisateurs pour justement casser aussi le côté mystificateur du cinéma, pour faire des vraies rencontres entre des producteurs et des spectateurs qui eux-mêmes aient envie de faire d'autres films. Il y avait des idées d'ateliers de réalisation. tout ça, actuellement, est en train de disparaître. Et ce qui nous énerve, si vous voulez, c'est que, parallèlement à ça, il faut que le public sache que 5,5% du chiffre d'affaires des télévisions et 12,5% de ce que chaque spectateur paye sur son ticket va dans un fonds, qui est un fonds public, qui s'appelle le fonds de soutien, qui produit 550 millions d'euros. Je dis toujours ce chiffre parce que c'est des sommes considérables que le cinéma a eu l'intelligence de mettre de côté, soi-disant, pour aider l'avance sur recette, mais qui n'est plus que 8,5% de ce fonds de soutien, l'avance sur recette. C'est aujourd'hui dérisoire. Et que... Où va cet argent? Elle va dans, pour les films de plus de 7 millions d'euros, c'est-à-dire pour des films comme Camping et tout ça, qui pompent le fonds de soutien, qui donc ça ne devrait pas être le rôle. Donc les plus riches détournent l'argent public et les circuits ont constitué les multiplexes qui aujourd'hui évincent tout ce qui est contestataire par rapport à un formatage idéologique, en utilisant l'argent public. Donc c'est de la responsabilité de l'État, du ministère de la Culture, de nos gouvernants, de changer ça. Donc il est légitime. Les cinéastes à Cannes et avant Cannes ont commencé à s'exprimer. Il y a eu un rapport autour de Pascal Ferrand après son intervention au dernier César, bon, qu'on a appelé ensuite le Club des 13, qui pose toutes ces questions. Et j'espère vraiment que le pouvoir va entamer des négociations, mais moi je pense que face à nous, les rapports de force sont tels au niveau des circuits Pathé, Gaumont, UGC, et aujourd'hui par des anciens gauchistes comme Marine Kermins qui va les rejoindre, qui attaque en justice. Vous imaginez dans quel pays on est aujourd'hui? On attaque des salles municipales qui font leur travail parce qu'elles veulent s'agrandir alors que et qui on les accuse de faire de l'abus de position dominante, alors qu'il y a en France depuis 20 ans un abus de position dominante caractérisé. Le monde est à l'envers et le pire c'est que les politiques ne disent rien. On est sur le terrain aujourd'hui, il y a une incurie de la pensée, de la culture dans ce pays, de la gauche, pour dire le vrai problème, c'est que face à une droite décomplexée, comme elle se qualifie, on a une gauche complètement complexée qui ne mène plus les combats qui doivent être menés. Et qu'il est temps qu'on se réveille, parce qu'on va à la catastrophe. Et je pense vraiment qu'il y a des moyens d'inverser les choses, mais il faut s'y mettre, quoi. Il faut arrêter de fermer les yeux.
Mais alors, avec justement dans ce contexte politique où le pouvoir est aux mains de cette droite décomplexée, est-ce que le décomplexée qui veut liquider l'esprit 68, est-ce qu'en fait ça pourrait pas redynamiser l'engagement au sein du cinéma? Ou alors, au contraire, les gens ont de plus en plus peur et on va dans le sens de cette régression?
Non, moi je pense que Sarkozy nous a rendu un fief et service en disant qu'il voulait éradiquer 68. Bah, il a fait que tout le monde parle de 68. Mais là encore, c'est très pervers. C'est-à-dire l'industrie, vous savez, il y a une façon de tuer une chose maintenant. On n'utilise plus la censure, on la multiplie à l'infini en lui retirant son contenu. Et résultat, les gens sont saturés et il y a un phénomène de saturation. Évitant justement de poser des questions, de revenir aux sources, de montrer encore une fois ce qu'a été 68 dans tous ses aspects et non pas dans le showbiz qu'on est en train de nous sortir et qui l'étouffe complètement. Donc voilà, d'où le fait par exemple que moi je pense, un peu comme l'a dit Jean-François, qu'il est indispensable aujourd'hui de travailler à la mémoire. Travailler à la mémoire, c'est pas seulement travailler au passé, c'est travailler à l'avenir, c'est témoigner aussi des erreurs, des échecs de notre génération, pour que d'autres reprennent en main, puissent la contester, reconstruire autre chose, et que on a un devoir de mémoire. Et c'est pour ça, par exemple, tous les cinéastes qui avons tourné à l'époque, on a rencontré une grosse édition. Nommons-la, elle s'appelle les éditions Montparnasse, et on veut sortir, là on prépare pour la rentrée 4 DVD qui vont reprendre tous ces films. Mais ce qui est fou, c'est que c'est le privé qui fait ça, c'est un éditeur et parce qu'il y a un directeur de collection qui s'appelle Patrick Lebout, qui est un homme profondément engagé, intelligent, qui a fait le coffret Medvedkin, qui a dit mais pourquoi 68 on en parle et on monte pas les films? Et donc, mais vous croyez que c'est les grandes institutions? Où est la Cinémathèque française? Où est l'INA? Enfin, c'est hallucinant quand même. C'est-à-dire, on réécrit l'histoire, et c'est ça que je pense, c'est pour détruire un peuple, on commence par lui retirer sa mémoire, et d'autres vont écrire une autre histoire, une autre mémoire, et le peuple oublie tout doucement qui il était. Et on est en plein phénomène de déculturation, Et voilà, il faut qu'on se prenne en main, et ça ne pourra venir que justement de tous ceux qui font ce travail de terrain. Voilà.
Jean-François Néplaze.
C'est bizarre, je me sens moins désespéré que d'habitude quand tu es à côté de moi, tu vois. Et parce que peut-être c'est parce que tu n'es pas assez souvent à Marseille, alors tu as l'impression que tout est bouché comme ça. Non, ce qui est sûr, c'est que la situation d'aujourd'hui crée des opportunités. Les réseaux de salles, cinéma à essai, cinéma de recherche y compris, et des plus proches, sont allés dans le mur parce qu'ils se sont mis dans des petites niches commerciales sans intérêt pour diffuser un cinéma des années passées. Des solutions alternatives aujourd'hui sont à trouver, y compris dans le réseau des salles de cinéma. Encore faut-il que les films soient faits pour ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les auteurs se sont cru qu'ils allaient se sauver par la télévision. Et ils n'ont pas fait les films pour les salles. Bon. Par contre, la situation actuelle qui fait que l'État se désengage, pour moi, nous crée une responsabilité nouvelle. Alors, on va continuer de manifester contre l'image de la culture qui est donnée par ces grands ignorants au pouvoir. Mais dans le même temps, nous devons savoir que nous devons inventer de nouvelles circulations qui ne passent pas obligatoirement par la capitale, qui passent par les régions d'Europe qui nous sont voisines, avec lesquelles nous devons retrouver des nouvelles circulations qui existaient autrefois. Et je pense à nos voisins d'Italie, avec lesquels nous sommes en relation permanente. Nous travaillons avec des laboratoires italiens, nous travaillons avec des associations italiennes qui diffusent nos films en Italie, et dont nous diffusons les films en France. Nous échangeons avec des cinéastes de toute l'Europe, et ce sont ces relations-là sur lesquelles on va construire de nouvelles circulations et de nouvelles économies. Retrouvons les chemins du futurisme, des mouvements artistiques du début du siècle, du XXe siècle, qui circulaient beaucoup plus librement qu'aujourd'hui. Nous avons d'abord régressé quand tu parlais du problème des sans-papiers. Je veux dire, c'est l'expression la plus tragique de quelque chose que nous vivons tous. Travailler avec l'Italie sur le plan simplement de la circulation des hommes, mais c'est un désastre. On se croirait, c'est plus difficile qu'au Moyen-Âge. Travailler avec la Lituanie et l'Estonie qui font partie de l'Europe, mais c'est absolument pas adapté à la réalité des relations que nous voulons tisser, des relations culturelles. On laisse circuler uniquement les marchandises et l'argent, mais les idées, ni la culture, ni l'humanité ne circulent. L'humanité est bloquée, figée.
On va terminer sur la...
Et puis, oui. Je permettrais de dire, et avec les pays du Sud, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau du cinéma. Moi, j'étais au Maroc, où mon dernier film, Ali Yala, circule beaucoup au Maroc maintenant. Et j'étais invité par tous les documentaristes marocains. C'est extraordinaire. Ils se mettent à filmer des films contradictoires, plein de vie sur leur société. Et justement, eux, ils n'ont pas d'autre solution. Ce n'est pas dans les salles de cinéma qui a passé, il n'y en a plus. Donc, il faut trouver d'autres lieux. Et donc, on les passe en public et on les passe en extérieur. On va dans des lycées intervenir. Donc, il y a ça, et j'étais la semaine dernière en Tunisie, il y a une volonté des réalisateurs tunisiens de dire aujourd'hui mais là, l'Europe, qu'est-ce que vous fabriquez? Il faut qu'on fabrique des choses ensemble, quoi. Donc il y a un avenir possible, mais il faut sortir de tous les formatages dans nos pensées qui nous ont bloqués depuis 20 ans. Moi, je dis que vraiment, la 68 a été détruit par les institutions de gauche qui ont vraiment repris les termes du pouvoir et qui nous ont installés dans la course au profit comme les autres, et non plus de croyances, et non plus chercher à défendre les valeurs de l'homme, de la culture. Quand vous pensez que c'est la gauche qui n'a pas voté le droit de vote des étrangers aux élections locales, alors que Jospin était au pouvoir, quel scandale que des hommes qui ont construit leur vie ici puissent pas voter dans ce pays. Mais c'est, les bras vous en tombent, et il faut pas s'étonner après que qui passe aux élections.
Bon, je suis désolée, Jean-Pierre Thorne, je suis obligée de vous arrêter. Dès que vous revenez à Marseille, on vous réinvite. On va terminer sur la musique du film de Christine Tépénier, Petites et grandes soustractions. Alors justement, Christine Tépénier, William Benedetto, Jean-Pierre Thorne, Richard Martin et Jean-François Néplaze, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission en direct du Tourski. Et merci à vous qui êtes de l'autre côté du poste de nous avoir écoutés. Je vous rappelle les titres des deux films de Jean-Pierre Thorne diffusés dans le cadre de mai 68, Amour et Révolution. Il y a Oser lutter, oser vaincre, tourné en mai 68, et Le dos au mur, tourné en 79. Bonne soirée à tous.